à distance, donc la récompense du courage face au feu dans le cadre du prix Magnitsky.
Oriane Verdier pour refermer ce journal. Très bonne journée sur RFI.
Radio G 101.5 FM.
À court d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres, ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découverte littéraire. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis, à 9h10, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonjour et bienvenue. On se retrouve de nouveau pour la cinquième découverte littéraire de l'année. Les dernières émissions étaient consacrées au roman immortel de J.R. Dos Santos. Vous pouvez les retrouver sur radio-g.fr, rubrique Voix au chapitre. Vous pouvez aussi retrouver l'actualité de l'émission sur la page Instagram du même nom. Aujourd'hui, et pour une fois sur une seule émission, je vais présenter un livre de non-fiction que je catégoriserai comme autobiographique. Ainsi, je vais donner voix au livre « Sais-tu pourquoi je saute ?» de Naoki Higashida. À la date de parution du livre, l'auteur, Naoki, avait 13 ans. C'est un garçon autiste qui répond à travers ce livre aux questions que les gens lui posent le plus souvent à propos de sa manière de fonctionner. On se retrouve après cette sélection de questions-réponses. Bonne écoute sur Radio G. Question numéro 11. Pourquoi fuis-tu le regard visuel quand tu parles à quelqu'un ? C'est vrai, nous regardons rarement les gens dans les yeux. Quand tu parles à quelqu'un, regarde-le bien dans les yeux. On me l'a répété des dizaines de fois, mais je n'y arrive toujours pas. Moi, regarder quelqu'un à qui je parle dans les yeux, ça me donne la chair de poule, alors j'ai tendance à l'éviter. Et qu'est-ce que je regarde exactement ? Vous croyez peut-être que dans ces moments-là, nous regardons par terre ou les objets autour de nous, mais non. Vous vous trompez. Ce que nous regardons, c'est la voix qui nous parle. Les voix ne sont peut-être pas visibles, mais un autiste essaie d'écouter son interlocuteur avec tous ses organes sensoriels. Quand on est complètement concentré pour tenter de comprendre ce que l'autre peut bien être en train de dire, notre sens de la vue décroche. Lorsqu'on ne reconnaît plus ce qu'on regarde, c'est comme si on ne voyait rien du tout, non ? Ce qui m'a longtemps contrarié, c'est une idée que se font beaucoup de gens. Garder le contact oculaire avec eux pendant qu'ils nous parlent signifierait qu'on comprend tout ce qu'ils disent. Si seulement c'était le seul problème, mon handicap serait guéri depuis très très longtemps. Question numéro 16. Est-il vrai que tu détestes qu'on te touche ? Personnellement, je n'ai pas de problème particulier avec les contacts physiques, mais certains autistes, c'est vrai, ne supportent pas d'être enlacés ni même touchés. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Je crois que ça les met mal à l'aise. Le simple fait de changer de vêtements en fonction de la saison, d'en ajouter l'hiver et de s'habiller plus léger en été, peut être très compliqué pour les gens qui sont perturbés par leurs sensations tactiles. S'adapter au changement de situation, c'est un vrai défi pour nous. Plus généralement, être touché par quelqu'un d'autre pour un autiste signifie que celui qui le touche exerce un contrôle sur son corps, alors que lui, le propriétaire de ce corps, n'arrive justement pas à le maîtriser. C'est comme si on nous ôtait ce que nous sommes. Pensez-y, c'est terrifiant. Il y a une autre terreur. Si on nous touche, nos pensées risquent de devenir visibles. Si cela se produit, l'autre personne s'inquiétera énormément à notre sujet. Vous comprenez ? Nous bâtissons une barricade autour de nous pour tenir les gens à distance. Question numéro 24. Aimerais-tu être normal ? Que ferions-nous si nous avions une chance de redevenir normaux ? Je suppose que ceux qui s'occupent de nous, nos parents et nos éducateurs seraient fous de joie et qu'ils crieraient « Alléluia, vite, ramenons-les à la normale !» Et pendant toutes ces années, moi aussi, j'aurais vraiment voulu être comme tout le monde. Vivre en handicapé, avec tant de besoins spécifiques, c'est une vie déprimante et sans répit. J'ai tellement désiré redevenir normal, et depuis si longtemps. Mais aujourd'hui, même si quelqu'un mettait au point un traitement médicamenteux capable de guérir l'autisme, je choisirais peut-être de rester comme je suis. Puis, comment est-ce que j'en suis venu à envisager les choses de cette façon? Pour faire bref, j'ai appris que chaque être humain, avec ou sans handicap, doit donner le meilleur de lui-même, et qu'en luttant pour atteindre le bonheur, on arrive au bonheur. Pour nous, vous voyez, être autiste, c'est normal. Il est donc bien difficile d'imaginer à quoi ressemble votre vie normale à vous. Mais du moment que nous avons la possibilité d'apprendre à nous aimer nous-mêmes, je ne suis pas sûre que cela soit si important d'être normal plutôt qu'autiste. Question 27. Pourquoi les autistes se bouchent-ils souvent les oreilles? Est-ce quand il y a beaucoup de bruit? Il y a certains bruits que vous ne remarquez pas, mais qui nous agressent vraiment. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi ces sons nous perturbent. Ce n'est pas vraiment qu'ils nous tapent sur les nerfs, ça a plutôt à voir avec la crainte que, si nous continuons à les écouter, nous risquons de ne plus du tout savoir où nous sommes. Dans ces moments-là, c'est comme si le sol tremblait et que le paysage, autour de moi, s'avançait pour m'avaler. C'est absolument terrifiant. Se boucher les oreilles, c'est un moyen de me protéger et de retrouver mes repères spatiaux. Les bruits qui dérangent les personnes avec autisme sont différents pour chacun. Je ne sais pas comment nous ferions si nous ne pouvions pas nous boucher les oreilles. Moi aussi, je le fais encore parfois, même si je me suis habituée au bruit en appuyant de moins en moins sur mes oreilles. Certains autistes peuvent surmonter ce problème en s'habituant petit à petit au bruit, je crois. Le plus important, c'est d'arriver à se sentir totalement en sécurité, même quand il y a ces bruits menaçants. Question 30. Pourquoi es-tu soit trop sensible, soit insensible à la douleur? Certains autistes font tout un drame quand on leur coupe les cheveux ou les ongles, alors qu'en principe ce n'est pas douloureux du tout. Et puis il y a ceux qui restent très calmes et concentrés, même quand ils ont une blessure qui doit forcément être douloureuse. Je ne crois pas essentiellement que ce soit lié aux nerfs et aux terminaisons nerveuses. C'est plutôt un problème de douleur intérieure qui s'exprime par le corps. Quand les souvenirs reviennent subitement, nous avons un flashback. Mais dans le cas des autistes, les souvenirs ne sont pas stockés dans un ordre clair. Ceux d'entre nous qui ne supportent pas qu'on leur coupe les cheveux ou les ongles ont probablement des souvenirs négatifs associés à cet acte. Une personne normale dira « Depuis qu'il est tout petit, il a toujours détesté qu'on lui coupe les cheveux et les ongles, absolument toujours, et on n'a jamais su pourquoi. » Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la mémoire d'un autiste ne ressemble pas à un classeur avec des fiches numérotées où on retrouverait facilement le souvenir qu'on recherche. C'est plutôt une sorte de puzzle où il suffit qu'une pièce ait été insérée au mauvais endroit pour que le puzzle tout entier soit impossible à reconstituer. Qui plus est, une seule pièce mal positionnée peut perturber tous les souvenirs qui l'entourent. Ce n'est donc pas nécessairement la douleur physique qui nous fait pleurer, mais sans doute plutôt la mémoire. Quant à ceux qui ne montrent aucun signe de souffrance, ma théorie c'est qu'ils sont incapables de les manifester, ces signes. Je crois que vous n'avez pas idée à quel point il nous est difficile d'exprimer ce que nous ressentons. Pour nous, il est plus simple d'affronter la douleur en la traitant comme si elle avait déjà disparu que de faire savoir à d'autres que nous souffrons. Les gens normaux pensent que nous sommes complètement dépendants et ne pouvons pas vivre sans une assistance continuelle, mais très franchement, il nous arrive aussi de faire preuve d'un stoïcisme héroïque. Question numéro 31. Pourquoi as-tu un rapport si compliqué à la nourriture? Certains autistes suivent un régime très strict, c'est vrai. Moi, je n'ai pas vraiment ce problème, mais je peux comprendre d'où il vient, je crois. En tout cas, jusqu'à un certain point. L'acte qu'on appelle manger, nous le répétons 3 fois par jour, mais pour certaines personnes, devoir manger des aliments différents à chaque repas, c'est une méga prise de tête. Chaque type de nourriture a sa couleur, sa forme et son goût particulier. En général, c'est grâce à ces différences que l'acte de manger est un plaisir. Mais pour certains autistes, seuls les aliments qu'ils ont déjà identifiés comme mangeables ont du goût. Le reste est à peu près aussi appétissant que ces aliments en plastique avec lesquels les enfants jouent à la dinette. Pourquoi percevons-nous ainsi tout nouvel aliment? Vous pourriez balayer la question en répondant « Le sens du goût des autistes est complètement perturbé ». Et s'il avait seulement besoin de plus de temps qu'une personne ordinaire pour parvenir à apprécier des aliments inconnus? Même si les autistes semblent tout à fait satisfaits des aliments dont ils ont l'habitude, d'après moi, un repas ne devrait pas être considéré comme servant uniquement à se nourrir. Manger est aussi une des joies de la vie. Manger, c'est vivre, et il faut absolument inciter les autistes pinailleurs à goûter de nouveaux aliments, petit à petit. C'est ce que je crois en tout cas. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le livre « Sais-tu pourquoi je saute ?» de Naoki Higashida. Bonne écoute. Question numéro 38. Pourquoi alignes-tu tes petites voitures et tes cubes ? Aligner des objets, c'est vraiment le super kiff. Regarder l'eau couler, c'est génial aussi. Les autres enfants semblent adorer les jeux où on fait semblant et où on joue un rôle. Mais en tant qu'autiste, je ne vois pas vraiment leur intérêt. Par contre, ce qui est très important pour moi, en fait je suis assez obsessionnelle à ce sujet, c'est l'ordre dans lequel sont disposées les choses et les différentes manières de les aligner. Les autistes aiment particulièrement les lignes et les surfaces d'objets comme les puzzles et autres jouets du même genre. Quand on joue de cette façon, on a l'esprit tout revigoré et clair. Question numéro 42. Pourquoi mémorises-tu les horaires de train et les calendriers ? Parce que c'est drôle. On adore vraiment les chiffres, nous les personnes avec autisme. Les chiffres sont des choses fixes, immuables. Le chiffre 1, par exemple, reste toujours, quoi qu'il arrive, le chiffre 1. Cette simplicité, cette clarté, c'est réconfortant pour nous. Quiconque lit un horaire ou un calendrier peut constater que les horaires sont toujours les mêmes et qu'il suffit pour les comprendre d'appliquer quelques règles simples. Quand il s'agit de nos activités préférées, on est capable de les mémoriser aussi facilement que si elles s'imprimaient toutes seules dans notre cerveau. Par contre, les choses invisibles, comme les relations humaines et les expressions ambiguës, les autistes ont du mal à les fixer dans leur mémoire. Peut-être pensez-vous que ce n'est pas un gros effort pour moi d'écrire toutes ces phrases, mais vous vous trompez complètement. Au fond de ma tête, il y a toujours cette angoisse. Je me demande si je perçois les choses de la même façon que les non-autistes. Et donc, en regardant la télé, en lisant des livres et juste en observant les gens, j'enregistre tout le temps comment les personnes normales sont censées réagir dans telle ou telle situation. Et quand j'apprends quelque chose de nouveau, j'écris une petite histoire qui traite de la situation en question. Ainsi, avec un peu de chance, elle ne me sortira pas de la tête. Question numéro 45. Pourquoi aimes-tu tant les balades au grand air ? Je crois que beaucoup de personnes avec autisme aiment marcher et je me demande si vous pouvez comprendre pourquoi. Parce que marcher vous fait vous sentir bien ? Parce que c'est génial d'être dehors au grand air ? Ces deux réponses sont exactes, bien sûr, mais pour moi la raison numéro 1, c'est que les autistes aiment la nature et les espaces verts. Maintenant, vous vous dites peut-être « Ah bon ? Et c'est tout ?» En tout cas, notre amour de la nature diffère un peu, je crois, de celui de la plupart des gens. J'imagine que ce qui vous touche dans la nature, vous, c'est la beauté des arbres, des fleurs et des paysages. Mais pour nous qui avons des besoins spécifiques, la nature est aussi importante que notre propre vie. En la regardant, c'est comme si nous recevions la permission de vivre dans ce monde et notre corps tout entier est rechargé. Nous sommes souvent ignorés ou repoussés par les autres, mais la nature sera toujours là pour nous prendre dans ses bras et nous serrer fort contre elle. Le vert de la nature, c'est la vie des plantes et des arbres. Le vert, c'est la vie. Et c'est la raison pour laquelle nous aimons tant nous promener. Question numéro 47. Peux-tu nous donner l'exemple d'une activité que les personnes avec autisme apprécient vraiment ? Il y a une chose qui nous donne beaucoup de plaisir et que vous aurez sûrement du mal à deviner. C'est l'amitié avec la nature. La raison pour laquelle nous ne sommes pas très doués pour le rapport avec les autres, c'est que nous pensons trop à l'impression que nous faisons à l'autre ou à la réaction que nous devrions avoir dans telle ou telle situation. Mais la nature est toujours là, à portée de main, pour nous envelopper doucement. Elle rayonne, elle vibre, elle bouillonne, elle bruisse. Il suffit que j'observe la nature pour avoir le sentiment d'être englouti par elle. À ce moment-là, j'ai l'impression que mon corps devient un grain de poussière, bien plus ancien que le jour de ma naissance. Un grain de poussière qui s'en confond avec la nature elle-même. Cette sensation est si surprenante que j'oublie que je suis un être humain, avec des besoins très spécifiques à satisfaire, par-dessus le marché. La nature me calme quand je suis furieux, et elle rit avec moi quand je suis heureux. Vous pensez peut-être qu'il est impossible que la nature soit une amie, en tout cas pas au sens propre. Mais les êtres humains font partie du règne animal, et peut-être que nous, les autistes, avons gardé une sorte de conscience atavique de cela, enfouie au plus profond de nous. J'aimerais toujours profondément la part en moi qui est l'amie de la nature. Question numéro 54. Pourquoi as-tu besoin de signaux ou de consignes pour agir ? Les personnes avec autisme sont parfois incapables d'agir avant d'en avoir reçu la consigne orale. Moi, par exemple, alors qu'on m'apporte un verre de jus de fruits que j'ai demandé Je ne vais pas commencer à boire avant que quelqu'un me dise « à la tienne » ou bien « vas-y, bois ». Et même si l'autiste vient d'annoncer « bon, je vais accrocher mes vêtements dans la penderie », il ne rejoindra pas le geste à la parole avant d'avoir reçu le feu vert « ok ». Je ne sais vraiment pas pourquoi les autistes ont besoin de ces signaux, mais ce que je sais, c'est que je suis comme ça. En principe, puisque nous savons parfaitement ce que nous avons décidé de faire, rien ne devrait nous empêcher de nous y mettre, non ? Je suis bien d'accord avec vous. Mais le fait est qu'il nous est très, très difficile d'accomplir une action sans avoir reçu le bon signal. Un autiste ne traversera pas une rue tant que le feu n'est pas passé au rouge. Je ne sais pas comment attaquer l'action suivante tant que mon cerveau n'a pas reçu le signal adéquat. Entreprendre quoi que ce soit sans obéir à la règle du signal est terrifiant. Ça suffit à me faire perdre complètement le fil. Quand on entre dans cette phase terrifiante, on peut s'habituer, petit à petit, à l'idée qu'il est possible de passer à l'action sans avoir reçu ce fameux signal. Mais un autiste semble incapable d'y arriver tout seul. Comme vous pouvez en juger d'après le méga raffut qu'il fait à chaque fois. Il résiste, pleure, crie, se roule par terre, casse des trucs. Et pourtant, nous vous demandons de ne surtout pas capituler. C'est nous qui souffrons le plus de ces crises, et notre souhait le plus cher, c'est de nous libérer de nos propres chaînes. Question numéro 56. As-tu besoin de planning visuel ? Je comprends bien qu'un planning n'est qu'un programme et qu'il n'est jamais définitif. Mais je n'arrive pas à admettre qu'une activité, une fois fixée, ne se déroule pas exactement comme prévu. Je comprends aussi qu'on ne peut pas toujours éviter les changements. Mais mon cerveau proteste de toutes ses forces. Pas question, c'est inacceptable. En ce qui me concerne, je ne suis pas très fan des plannings visuels affichés un peu partout à la maison. On imagine que les autistes sont peut-être plus heureux quand ils disposent d'images et de diagrammes qui leur disent où ils doivent aller et quand. Mais en réalité, ces tableaux finissent par nous enfermer. Ils nous font passer pour des robots dont les moindres actes sont préprogrammés. Ma suggestion serait qu'au lieu d'afficher des plannings visuels, vous nous exposiez le déroulement de la journée par oral et à l'avance. Ces calendriers visuels ont une telle emprise sur nous que le moindre changement de programme nous perturbe beaucoup, nous panique parfois. Et il ne faut pas croire qu'inscrire sur le planning les changements de programme résoudra ce problème. Le message que je veux faire passer est le suivant. S'il vous plaît, sur nos calendriers, n'utilisez pas de rappels visuels, d'images avec les heures et les durées des activités prévues, parce qu'ils s'impriment trop fortement dans notre mémoire. Du coup, nous finissons par nous stresser nous-mêmes en nous demandant si ce que nous sommes en train de faire correspond bien à ce qui était inscrit sur le planning. Moi, par exemple, je vérifie l'heure si souvent que je ne suis plus capable d'apprécier ce que je suis en train de faire. Les gens qui ne connaissent pas les autistes ont tendance à les juger, pour la plupart, incapables de comprendre l'emploi du temps de la journée par la simple écoute. Mais tentez l'expérience. Et même si nous posons sans cesse les mêmes questions, nous prendrons le pli et nous vous harcèlerons de moins en moins. C'est sûr, ça prend du temps, mais je crois qu'à la longue, ce système sera plus facile à adopter pour nous. Par contre, quand il s'agit d'expliquer l'ordre dans lequel certaines activités doivent être effectuées ou de fournir les instructions pour fabriquer tel ou tel objet, des supports visuels, des images par exemple, peuvent être très utiles. Mais nous montrer les photos des endroits qu'on va aller visiter lors de la prochaine sortie scolaire, ça risque de nous gâcher le plaisir. Dans ce livre, Naoki répond en fonction de son expérience personnelle, se mettant parfois à la place d'autres autistes. Il est important de prendre en considération que ces réponses ne sont pas représentatives du fonctionnement de chaque autiste. Le livre est court, moins de 200 pages, et se lit donc très vite. D'où mon choix de ne faire qu'une seule émission dessus. C'est une lecture facile, mais instructive. Nous étions donc sur le livre « Sais-tu pourquoi je saute ?» de Naoki Higashida. Il est disponible en librairie aux éditions J'ai lu. Vous pourrez retrouver et réécouter cette émission sur radio-g.fr et suivre les prochaines sorties d'émissions sur la page Instagram Voix au chapitre. Nous nous retrouverons pour une nouvelle découverte la semaine prochaine pour le début particulier d'une romance entre un lycéen et une lycéenne tous deux brisés. En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end!
www.radio-g.fr.